Shakespeare, Le Roi Lear, Acte 2, Scène 3. Une bruyère. Entre Edgar. Edgar. J'ai entendu la proclamation lancée contre moi. Et, grâce au creux d'un arbre, j'ai esquivé les poursuites. Pas un port qui ne soit fermé, pas une place où il n'y ait une vedette, où la plus rigoureuse vigilance ne cherche à me surprendre. Tant que je puis échapper, je suis sauvé. J'ai pris le parti d'assumer la forme la plus abjecte et la plus pauvre à laquelle la misère ait jamais ravalé l'homme pour le rapprocher de la brute. Je veux grimer mon visage avec de la fange, ceindre mes reins d'une couverture, avoir tous les cheveux noués comme par un sortilège. Je veux, en leur présentant ma nudité, braver les vents et les persécutions du ciel. Le pays m'offre pour modèle ces mendiants de bedlam qui, en poussant des rugissements, enfoncent dans la chair nue de leurs bras inertes et gangrénés des épingles, des échardes de bois, des clous, des brindilles de romarin, et sous cet horrible aspect, extorquent la charité des pauvres fermes, des petits villages, des bergeries et des moulins, tantôt par des imprécations de lunatiques, tantôt par des prières. « Je suis le pauvre Turlupin, le pauvre Tom !» C'est quelque chose. Edgar n'est plus rien. Il sort. Shakespeare, acte 2, scène 4. Devant le château de Gloucester. Kent est toujours dans les cèpes. Entre Lear, le fou, un gentilhomme. Lear. Il est étrange qu'il soit ainsi parti de chez eux sans me renvoyer mon messager. Le gentilhomme. J'ai su que la nuit précédente, il n'avait aucune intention de s'éloigner. Kent. Salut à toi, noble maître. Lear. Quoi ? Te fais-tu un passe-temps de cette ignominie ? Kent. Non, monseigneur. Le fou. Ha 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 ! Vois donc, il porte là de cruelles jarretières. Les chevaux s'attachent par la tête, les chiens et les ours par le cou, les singes par les reins, et les hommes par les jambes. Quand un homme est trop gaillard de ses jambes, alors il porte des choses de bois. Lear. Et qui donc a méconnu ton rang jusqu'à te mettre là ? Kent. C'est lui et elle, votre fils et votre fille. Lear. Non. Kent. Si fait. Lear. Non, te dis-je. Kent. Je vous dis que oui. Lear. Non. Non, ils ne feraient pas cela. Kent. Oui, ils l'ont fait. Lear. Par Jupiter, je jure que non. Kent. Par Junon, je jure que oui. Lear. Il n'aurait pas osé le faire. Il n'aurait pas pu, il n'aurait pas voulu le faire. C'est pis qu'un assassinat de faire au respect un si violent outrage. Réponds-moi avec toute la promptitude raisonnable. Comment as-tu pu mériter, comment as-tu pu subir un pareil traitement venant de notre part ? Kent. Seigneur, je venais d'arriver chez eux et de leur remettre la lettre de votre Altesse. Avant même que j'eusse redressé l'attitude de mon hommage agenouillé, est survenu un courrier fumant et ruisselant de sueur. À demi essoufflé, il a balbutié les compliments de Gonéril, sa maîtresse, et a présenté une lettre que, sans souci de mon message, ils ont lue immédiatement. Sur son contenu, ils ont réuni leurs gens, sont vite montés à cheval, m'ont commandé de les suivre et d'attendre le loisir de leur réponse en me jetant un regard glacial. Ici, j'ai rencontré le messager dont l'ambassade avait empoisonné la mienne. C'est ce même drôle qui, dernièrement, s'est montré si insolent envers votre Altesse. Écoutant mon sentiment plus que ma réflexion, j'ai dégainé. Le lâche a, par ses hauts cris, mis en émoi toute la maison. Votre fils et votre fille ont trouvé cette infraction digne de l'humiliation qu'elle subit ici. Le fou. L'hiver n'est pas encore fini si les oies sauvages volent dans cette direction. Les pères qui portent guenilles font aveugles leurs enfants. Mais les pères qui portent sacs verront tendre leurs enfants. Fortune. Cette fille est fée putain, jamais n'ouvre sa porte aux pauvres. Baf. Après tout, tu auras de tes filles plus de douleurs que tu ne pourrais compter de dollars en un an. Lear. Oh, comme cette humeur morbide monte à mon cœur. Historica passio. Arrière, envahissante mélancolie. C'est plus bas qu'est ton élément. Où est-elle, cette fille ? Kent. Avec le comte, ici, dans le château. Lear. Ne me suivez pas, restez ici. Il entre dans le château. Le gentilhomme à Kent. N'avez-vous pas commis d'autre offense que celle que vous venez de dire ?
Kent.
Aucune. Mais comment le roi vient-il avec un si mince cortège ?
Le fou.
Si tu avais été mis au cep pour cette question-là, tu l'aurais bien mérité.
Kent.
Pourquoi fou ?
Le fou.
Nous t'enverrons à l'école chez la fourmi pour t'apprendre qu'il y a chômage en hiver. Tous ceux qui suivent leur nez sont dirigés par leurs yeux, excepté les aveugles. Et entre 20 aveugles, il n'est pas un nez qui ne flaire l'homme qui pue. Lâche ta grande roue si elle roule en bas de la côte. Tu te romprais le cou en la suivant. Mais si elle remonte la côte, fais-toi remorquer par elle. Quand un sage te donnera un meilleur conseil, rends-moi le mien. Je veux qu'il n'y ait que des coquins à le suivre, puisque c'est un fou qui le donne. Celui qui sert par intérêt, messire, et ne t'attache que pour la forme, pliera bagage dès qu'il pleuvra et te laissera dans l'orage. Mais moi, je demeurerai. Le fou veut rester, et laisser le sage s'enfuir. Coquin devient le fou qui s'esquive. Et fou, pardi, n'est pas le coquin.
Kent.
Où avez-vous appris ça, fou ?
Le fou.
Pas dans les cèpes, fou. Rentre lire, accompagné de Gloucester.
Lire.
Refusez de me parler. Ils sont malades, ils sont fatigués. Ils ont fait une longue route cette nuit. Pur prétexte, faux fuyant de la révolte et de la désertion. Rapportez-moi une meilleure réponse.
Gloucester.
Mon cher seigneur, vous connaissez la nature bouillante du duc. Combien il est inébranlable et déterminé dans sa résolution.
Lire.
Vengeance, peste, mort, confusion. Il s'agit bien de bouillante nature. Eh, Gloucester, Gloucester, je veux parler au duc de Cornouailles et à sa femme.
Gloucester.
Mais, mon bon seigneur, je viens de les en informer.
Lire.
Les en informer ? Ça, me comprends-tu, l'homme ?
Gloucester.
Oui, mon bon seigneur.
Lire.
Le roi veut parler à Cornouailles. Le père chéri veut parler à sa fille et réclame ses services. Sont-ils informés de cela ? Soufflé sang, bouillant, le duc bouillant, dit à ce duc ardent que...
Mais non, pas encore.
Il se peut qu'il ne soit pas bien. La maladie a toujours négligé les devoirs auxquels s'astreint la santé. Nous ne sommes plus nous-mêmes quand la nature accablée force l'esprit à souffrir avec le corps. Je prendrai patience. J'en veux à mon impétueuse opiniâtreté de prendre la boutade morbide d'un malade pour la décision d'une saine volonté. Mort de ma vie.
Regardons Kent.
Pourquoi est-il assis là ?
Cet acte me prouve que la réclusion du duc et de ma fille n'est qu'un artifice.
Haussant la voix. Qu'on me rende mon serviteur.
À Gloucester.
Allez dire au duc et à sa femme que je veux leur parler. Vite, sur le champ. Dites-leur de venir m'entendre, ou j'irai à leur porte battre le tambour jusqu'à ce que mes cris tuent leur sommeil.
Gloucester.
Je voudrais tout arranger entre vous.
Il sort.
Lire.
Oh, mon cœur.
Mon cœur se soulève.
Allons, à bas.
Le fou. Crie-lui, mon oncle, ce que la ménagère criait aux anguilles au moment où elle les mettait toutes vives dans la pâte. Elle leur frappait le bec avec une baguette en criant « À bas, coquine, à bas !» C'est le frère de celle-là qui, par pure bonté pour son cheval, lui beurrait son foin. Entre Cornouailles, Regan, Gloucester et leur suite.
Lire.
Bonjour à tous deux.
Cornouailles.
Salut à votre grâce. On m'écène en liberté.
Regan.
Je suis heureuse de voir votre Altesse.
Lire.
Je le crois, Regan. Je sais que, de raison, j'ai pour le croire. Si tu n'en étais pas heureuse, je divorcerai avec la tombe de ta mère, sépulcre d'une adultère.
À Kent.
Ah, vous voilà libre. Nous parlerons de cela dans un autre moment. Bien-aimée Regan, ta sœur est une méchante. Oh, Regan, elle a attaché ici, comme un vautour, sa dévorante ingratitude. Il met la main sur son cœur. Je puis à peine te parler. Tu ne saurais croire avec quelle perversité. Oh, Regan.
Regan.
Je vous en prie, sire, prenez patience. Vous êtes, je l'espère, plus apte à méjuger son mérite qu'elle ne l'est à manquer au devoir.
Lire.
Et qu'est-ce à dire ?
Regan.
Je ne puis croire que ma sœur ait en rien failli à ses obligations. Si par hasard, sire, elle a réprimé les excès de vos gens, c'est pour des motifs et dans un but si légitime qu'elle est pure de tout blâme.
Lire.
Ma malédiction sur elle.
Regan.
Oh, sire, vous êtes vieux. La nature en vous touche à la limite extrême de sa carrière.
Vous devriez vous laisser gouverner et mener par quelque discrète tutelle mieux instruite de votre état que vous-même. Aussi, je vous en prie, retournez auprès de ma sœur et dites-lui que vous avez eu tort, sire. Lire. Moi, lui demander pardon? Vous voyez donc comme ce langage ferait honneur à une famille. Chère fille, je confesse que je suis vieux. La vieillesse est parasite. Je demande à genoux que vous daigniez m'accorder le vêtement, le lit et la nourriture. Regan. Bon, sire, assez. Ce sont des plaisanteries peu gracieuses. Retournez près de ma sœur. Lire. Jamais, Regan. Elle a restreint ma suite de moitié, m'a jeté de sombres regards et m'a frappé au fond du cœur de sa langue de serpent. Que toutes les vengeances accumulées du ciel tombent sur sa tête ingrate. Frappez ces jeunes os de paralysie, souffle néfaste. Cornouaille. Fille, sire, fille. Lire. Vous, éclairs agiles, dardez vos aveuglantes flammes dans ses yeux dédaigneux. Empoisonnez sa beauté, vapeurs aspirées des marées par le puissant soleil, et flétrissez sa vanité. Regan. Ô Dieu propice, vous ferez les mêmes vœux pour moi dans un accès de colère. Lire. Non, Regan. Jamais tu n'auras ma malédiction. Ta nature palpitante de tendresse ne t'abandonnera pas à la dureté. Son regard est féroce, mais le tien ranime et ne brûle pas. Ce n'est pas toi qui voudrais lésiner sur mes plaisirs, mutiler ma suite, me lancer de brusques paroles, réduire mon train, et pour conclusion, opposer les verrous à mon entrée. Tu connais trop bien les devoirs de la nature, les obligations de l'enfance, les règles de la courtoisie, les exigences de la gratitude. Tu n'as pas oublié cette moitié de royaume dont je t'ai doté. Regan. Bon sire, venez au fait. Bruit de trompette. Lire. Qui donc a mis mon homme au cep? Cornouaille. Quelle est cette fanfare? Entre Oswald. Regan. Je la reconnais, c'est celle de ma sœur. Sa lettre annonçait en effet qu'elle serait bientôt ici. À Oswald. Votre maîtresse est-elle arrivée? Lire. Voilà un maraud dont la fierté d'emprunt s'étaye sur la capricieuse faveur de celle qu'il sert. Hors de ma vue, valet. Cornouaille. Que veut dire votre grâce? Lire. Qui a mis au cep mon serviteur? Regan. J'aime à croire que tu n'en savais rien. Qui vient ici? Entre Gonéril. Ô cieux, si vous aimez les vieillards, si votre doux pouvoir encourage l'obéissance, si vous-même êtes vieux, faites de cette cause la vôtre, lancez vos foudres et prenez mon parti. À Gonéril. Peux-tu regarder cette barbe sans rougir? Ô, Regan, tu consens à la prendre par la main? Gonéril. Et pourquoi pas, monsieur? En quoi suis-je coupable? N'est pas coupable tout ce que réprouve l'irréflexion et condamne la caducité. Lire. Ô, mes flancs, vous êtes trop tenaces. Quoi, vous résistez encore? Comment se fait-il qu'un de mes familiers ait été mis au cep? Cornouaille. C'est moi qui l'y ai mis, monsieur, mais ces méfaits ne méritaient certes pas tant d'honneur. Lire. Vous? Quoi, c'est vous? Regan. Je vous en prie, père, résignez-vous à votre faiblesse. Si, jusqu'à l'expiration de ce mois, vous voulez retourner et séjourner chez ma sœur, après avoir congédié la moitié de votre suite, venez me trouver alors. Je suis pour le moment hors de chez moi, et je n'ai pas fait les préparatifs indispensables pour vous recevoir. Lire. Retourner chez elle? 50 de mes gens congédiés? Non, je préférerais abjurer tout abri, lutter contre l'inimité de l'air, être le camarade du loup et de la chouette, poignante rigueur de la nécessité, retourner près d'elle. Ah, bouillant roi de France, qui a pris sans dot notre plus jeune fille, j'aimerais autant m'agenouiller devant ton trône et mendier de toi la pension d'un écuyer pour soutenir ma servile existence. Retourner près d'elle. Conseille-moi plutôt de me faire l'esclave et la bête de somme de ce détestable valet. Il montre Oswald. Gonéril. À votre guise, monsieur. Lire. Je t'en prie, ma fille, ne me rends pas fou. Je ne veux plus te troubler, mon enfant. Adieu. Nous ne nous rencontrerons plus. Nous ne nous reverrons plus. Et pourtant, tu es ma chair, mon sang, ma fille. Ou plutôt, tu es dans ma chair une plaie que je suis forcé d'appeler mienne. Tu es un clou, un ulcère empesté, un anthrax tuméfié dans mon sang corrompu. Mais je ne veux pas te gronder. Que la confusion vienne quand elle voudra. Je ne l'appellerai pas. Je ne veux pas sommer le porte-foudre de te frapper, ni te dénoncer au souverain juge Jupiter. Réforme-toi quand tu pourras. Deviens meilleur à ton loisir. Je puis prendre patience. Je puis rester chez Regan, moi et mes 100 chevaliers. Regan. Pas tout à fait, monsieur. Je ne vous attendais pas encore et ne suis pas préparé pour vous recevoir convenablement. Écoutez ma sœur, monsieur, car ceux qui font contrôler votre passion par la raison doivent se borner à croire que vous êtes vieux et conséquemment... Mais Gonéril sait ce qu'elle fait. Lire. Est-ce donc là bien parlé ? Regan. J'ose l'affirmer, monsieur. Quoi, 50 écuyers, n'est-ce pas assez ? Qu'avez-vous besoin de plus ou de même autant ? La dépense, le danger, tout parle contre un si nombreux cortège. Comment dans une seule maison, sous deux autorités, tant de gens peuvent-ils vivre d'accord ? C'est difficile, presque impossible. Gonéril. Et ne pourriez-vous pas, milord, être servi par ces domestiques en titre ou par les miens ? Regan. Pourquoi pas, milord ? Si alors il leur arrivait de vous négliger, nous pourrions y mettre ordre. Si vous voulez venir chez moi, car à présent j'aperçois le danger, je vous prie de n'en amener que 25. À un plus grand nombre, je refuse de donner place ou hospitalité. Lire. Moi, je vous ai tout donné. Regan. Et il était grand temps. Lire. J'ai fait de vous mes gardiennes, mes déléguées, mais en réservant pour ma suite un nombre fixe de serviteurs. Quoi, il faut qu'en venant chez vous, je n'en ai que 25. Regan, avez-vous dit cela ? Regan. Et je le répète, milord, pas un de plus chez moi. Lire, regardant Gonéril, puis Regan. Ces méchantes créatures ont encore l'air bon à côté de plus méchantes. N'être pas ce qu'il y a de pire. Est-ce encore être au niveau d'un éloge ? À Gonéril. J'irai avec toi. Les 50 que tu accordes sont le double de ces 25. Et ton amour vaut deux fois le sien. Gonéril. Écoutez-moi, Milan. Qu'avez-vous besoin de 25 personnes, de 10, de 5, pour vous suivre dans une maison où un domestique deux fois aussi nombreux a ordre de vous servir ? Regan. Qu'avez-vous besoin d'un seul ? Lire. Oh, ne raisonnez pas le besoin. Nos plus vils mendiants trouvent le superflu dans la plus pauvre chose. N'accordez à la nature que ce dont la nature a besoin, et l'homme vit au même prix que la brute. Tu es une grande dame. Eh bien, si l'unique luxe était de se tenir chaudement. Qu'aurait besoin la nature de cette luxueuse parure qui te tient chaud à peine ? Mais quant au vrai besoin, ciel, accorde-moi la patience, c'est de patience que j'ai besoin. Vous voyez ici, ô Dieu, un pauvre vieillard accablé, double misère, par la douleur et par les années. Si c'est vous qui soulevez les cœurs de ces filles contre leur père, ne m'affolez pas au point que je l'endure placidement. Animez-moi d'une noble colère. Oh, ne laissez pas les pleurs, ces armes de femme souiller mes joues mâles. Strige dénaturée, je veux tirer de vous deux une telle vengeance que le monde entier. Je veux faire des choses, ce qu'elles seront, je ne le sais pas encore, mais elles feront l'épouvante de la terre. Vous croyez que je vais pleurer ? Non, je ne pleurerai pas. J'ai certes sujet de pleurer, mais ce cœur se brisera en 100 000 éclats avant que je pleure. Oh, bouffon, je deviendrai fou. Sorte lire, Gloucester. Kent et le fou. Cornouailles. Retirons-nous, il va faire de l'orage. Bruit lointain d'un orage. Regan. Ce manoir est petit et le vieillard et ses gens ne sauraient s'y loger à l'aise. Gonéril. C'est sa faute. Il s'est lui-même privé d'asile. Il faut qu'il souffre de sa folie. Regan. Pour lui, personnellement, je le recevrai volontiers. Mais pas un seul de ses gens. Gonéril. C'est aussi ma résolution. « Où est milord de Gloucester ?» Cornouailles. « Il a accompagné le vieillard. » Gloucester revient. « Mais le voici de retour. » Gloucester. « Le roi est dans une rage violente. » Cornouailles. « Où va-t-il ? » Gloucester. « Il commande les chevaux, mais je ne sais où il va. » Cornouailles. « Le mieux est de le laisser faire, qu'il se dirige. » Gonéril à Gloucester. « Milord, ne le pressez nullement de rester. » Gloucester. Hélas, la nuit vient, et les vents glacés se déchaînent furieusement. À plusieurs milles à la ronde, il y a à peine un fourré. Regan. Ah, messire, aux hommes obstinés, les injures qu'eux-mêmes s'attirent doivent servir de leçon. Fermez vos portes. Il a pour escorte des forcenés, et les excès auxquels il peut être entraîné par eux, lui dont l'oreille est facilement abusée, doivent mettre en garde la prudence. Cornouailles. Fermez vos portes, milord. Il fait une horrible nuit. Marigan vous donne un bon conseil. Dérobons-nous à l'orage. Ils sortent.